Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Aubin d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous sommes toujours dans la Passion selon Saint Marc. Il y a deux chapitres de Saint Marc qui vont couvrir la Passion, chapitres 14 et 15. Nous en sommes au verset 22 du chapitre 14. Sur le polycopier, donc, qui couvre les chapitres 11 à 16 de Saint-Marc. Nous sommes à la page 22. Donc, nous allons toucher, là, le miracle de la transfiguration, de la transsubstantiation, pardon, le changement de la substance du pain, qui disparaît pour devenir la substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, puis changement de la substance du vin qui disparaît pour devenir la substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec un changement de substance, mais sans changement des accidents. Les accidents, c'est-à-dire les apparences extérieures, la quantité, la qualité, l'aspect extérieur, le volume de vin par exemple, la taille de l'hostie, tout ça ne change pas. Il y a un changement de substance sans changement d'accident. Après la première transsubstantiation, donc le changement du pain au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, par la force du sacrement, la substance du pain disparaît, devient la substance du corps de notre Seigneur, mais par concomitance, il y a aussi avec le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de faire une séparation physique entre le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque notre Seigneur Jésus-Christ est au ciel avec un corps glorieux. Donc c'est la même chose pour la deuxième consécration. Il y a changement de la substance du vin en la substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ par la force du sacrement, mais par concomitance, il y a aussi avec le sang, le corps, l'âme et la divinité. Ça veut donc dire quoi ? Ça veut dire que lorsque vous communiez, vous recevez non seulement le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi son sang, son âme et sa divinité. Alors, on assiste à un véritable sacrifice, j'ai déjà expliqué, mais c'est très important de comprendre cela, c'est un enseignement de saint Thomas d'Aquin. Donc la double consécration est nécessaire pour qu'il y ait véritablement un sacrifice. Pour qu'il y ait sacrifice, il faut qu'il y ait séparation entre le corps et le sang, sinon il n'y a pas de sacrifice. Donc il faut destruction de la victime doit mourir pour qu'il y ait véritablement un sacrifice, séparation donc entre le corps et le sang, et consommation de la victime par celui qui fait le sacrifice. Donc la communion du prêtre est nécessaire à la validité de la messe, mais par contre pas à la communion des fidèles. Donc nous en sommes au verset 22 du chapitre 14 de Saint Marc. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et l'ayant béni, il le rompit et leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Ayant pris le calice et rendu grâce, il le leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui sera répandu pour un grand nombre. En vérité, je vous le dis, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau dans le royaume des cieux. » En voyant ce que disent les pères de l'Église sur ce sujet, encore une fois, j'ai pas tout mis, j'ai pris certains passages simplement. Ici je cite Saint Jérôme. Donc notre Seigneur va rompre lui-même le pain qu'il présente à ses disciples. Ce n'est plus du pain, c'est du corps de Jésus, corps de notre Seigneur, pour montrer que la fraction de son corps était la suite d'un plan qu'il avait tracé lui-même. N'oublions pas que cette transsubstantiation, c'est déjà la passion qui arrive. La passion va être la, le sacrifice rédempteur avec séparation physique entre le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque le corps va être crucifié sur la croix et le sang va être répandu jusqu'à la dernière goutte. Donc il va y avoir une véritable séparation entre le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Les dernières gouttes du sang de notre Seigneur Jésus-Christ vont être séparées du corps au moment où le soldat va percer le cœur de notre Seigneur. Donc il bénit le pain parce qu'en effet il a, conjointement avec le Père et le Saint-Esprit, rempli d'une vertu divine la nature qu'il a prise pour souffrir. Il bénit le pain et le rompt, et montre ainsi qu'il a daigné soustraire à la mort l'humanité dont il s'est revêtu, et faire éclater la puissance d'immortalité qui est en elle, et nous enseigner qu'il la ressusciterait promptement dans sa personne. Donc il va y avoir séparation, mais avec la résurrection le jour de Pâques, Dieu va de nouveau réunir en son Fils et le corps et le sang et l'âme et la divinité. Alors, n'oubliez pas, c'est aussi important à comprendre, bien que ce soit un grand mystère, que après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, il y a donc séparation entre le corps et le sang, mais le corps et l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ sont toujours unis à la divinité. Puisqu'il y a mort de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a donc séparation entre le corps et l'âme. Pour qu'il y ait mort, il faut qu'il y ait séparation entre le corps d'un côté, l'âme de l'autre. Et en plus, pour ce sacrifice, il faut qu'il y ait séparation aussi entre le corps et le sang. Mais le corps de notre Seigneur Jésus-Christ va être enfermé au tombeau pendant 2 jours, 3 jours, donc du vendredi saint au soir au dimanche de Pâques au matin, et l'âme va être séparée. S'il n'y avait pas séparation entre le corps et l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ, après sa mort sur la croix le vendredi saint, il n'y aurait pas véritablement mort. Pour qu'il y ait mort, il faut qu'il y ait séparation entre le corps et l'âme. Donc le corps est d'un côté et l'âme est de l'autre. Pour bien montrer cela, pour nous faire comprendre, notre Seigneur Jésus-Christ avec son âme descendit aux enfers. C'est dans toute lettre dans le credo. Il est descendu aux enfers. 3e jour, il ressuscita des morts. Et après sa mort, il est descendu aux enfers avec son âme. Mais son âme étant unie à la divinité, notre Seigneur Jésus-Christ a littéralement transformé les enfers en paradis. Alors attention, cet enfer, ces enfers dans lesquels va descendre notre Seigneur Jésus-Christ n'a rien à voir avec l'enfer des damnés. Ce sont les enfers, donc c'est le paradis des patriarches, le lieu d'attente, si vous voulez, des patriarches de l'Ancien Testament. Tous ceux de l'Ancien Testament, il y en avait pas mal, qui étaient morts en état de grâce, ne pouvaient pas aller au ciel parce que les portes du ciel étaient fermées. J'ai déjà expliqué tout ça, donc je reviens que rapidement là-dessus. Mais l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient visiter les gens qui étaient dans c'est ce qu'on appelle les limbes des patriarches. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va visiter les âmes qui étaient dans les limbes des patriarches, dans tous les élus de l'Ancien Testament, avec son âme et sa divinité, les deux. Quant au corps, qui est resté dans le tombeau pendant 3 jours, ce corps de notre Seigneur Jésus-Christ était, et ça c'est très important aussi à comprendre, ce corps était uni à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. En bas de la page 22, au sens mystique, le Seigneur donne à son corps, qui est l'Église actuelle, la forme de pain. On s'unit à ce corps par la foi. Il est béni par la multiplication de ses membres. Il est rompu par les souffrances. Il est donné dans les exemples de vertu reçus par l'enseignement. Il se change dans le calice au sang de Jésus-Christ mêlé d'eau et de vin pour nous purifier de nos fautes et tout à la fois pour nous racheter des supplices que nous avons mérités. N'oubliez pas que l'Église est le corps mystique du Christ. Donc de même qu'il y a un sacrifice réel dans le corps physique de notre Seigneur Jésus-Christ, par la Passion, il y a également un sacrifice mystiquement offert dans l'Église du Christ, qui est le corps mystique du Christ. Donc il y a une union entre son corps mystique et son corps physique. Et encore, on touche à un grand mystère. Notre Seigneur Jésus-Christ ne pouvant plus souffrir au ciel, puisque son corps est glorieux au ciel, il a les privilèges des corps glorieux, il ne peut plus souffrir, mais il va souffrir par son corps mystique. Donc le démon se venge, ne pouvant pas plus atteindre le corps physique de notre Seigneur Jésus-Christ directement, le démon va essayer d'atteindre le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire attaquer son Église. Et c'est la raison pour laquelle pendant la messe, on mêle au vin qui est dans le calice avant la consécration, pendant l'offertoire, on va mêler à ce vin une petite goutte d'eau qui symbolise justement tous les fidèles. C'est-à-dire les fidèles participent à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ offre sa passion pour chacun d'entre nous. Et donc il faut que nous soyons participions activement à cette passion de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que nous sommes responsables de cette passion. C'est par nos péchés que nous provoquons la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est en haut la page 23. C'est par le sang de l'agneau que les maisons des Hébreux sont préservées de l'ange exterminateur et leurs ennemis sont ensevelis dans les eaux de la mer. C'était des symboles figuratifs de l'Église de Jésus-Christ. Je t'ai expliqué la dernière fois, je crois, qu'il y a dans l'Ancien Testament toute une série de symboles qui annoncent le sacrifice de la messe. Les eaux de la mer Rouge qui sont divisées en deux annoncent le baptême, mais annoncent aussi ce sacrifice rédempteur. On va retrouver ça dans la Pâque, lorsque l'ange vient exterminer les premiers-nés de toutes les maisons des Égyptiens. Il ne va pas pénétrer dans les maisons des Hébreux qui sont protégées par le sang de l'Alliance. Et ce sang qui a été versé par le fait qu'on a tué l'agneau, ce sang de l'agneau qui marque la chambrante, si vous voulez, le pourtour de la porte d'entrée de la maison des Hébreux, ce sang de l'agneau représente le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. La maison qui est protégée représente notre âme. Et donc ce sang de l'agneau qui va protéger la maison, ce qui fait que l'ange exterminateur ne va pas pénétrer dans la maison pour tuer le premier-né, représente le baptême avec toutes ses conséquences. Donc à chaque fois qu'on baptise quelqu'un, on protège cette maison, c'est-à-dire l'âme, est marquée par le caractère du sacrement de baptême. À chaque fois que je communie, je marque de nouveau l'entrée de ma maison par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce sang va protéger ma maison, c'est-à-dire mon âme, des atteintes du démon. Donc, ce sont là des symboles, voilà ce que disent les pères. Donc, c'est par le sang, je répète, c'est par le sang de l'agneau que les maisons des Hébreux sont préservées de l'ange exterminateur et leurs ennemis sont ensevelis dans les eaux de la mer, je viens d'expliquer. Donc, c'est par la grâce, en effet, non point par nos mérites que nous avons été sauvés. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui vient marquer nos âmes avec le sacrement de baptême et qui remarque d'une autre façon nos âmes avec le sacrement de la Sainte Eucharistie. Il y a une différence essentielle, c'est que le marquage de notre âme par le baptême est un marquage définitif. Il y a un caractère qui est donné. Ce caractère, nul ne peut l'effacer. Dieu lui-même ne peut pas effacer le caractère du sacrement de baptême. Par contre, lorsque notre âme est marquée de nouveau avec le sang de l'agneau divin, c'est-à-dire par la Sainte Communion, malheureusement, ce sang, lui, peut être enlevé à chaque fois qu'on commet un péché mortel. En quelque sorte, on enlève ce sang protecteur. La maison n'est plus protégée parce que nous avons commis une faute grave. Et donc, il faut se dépêcher de pouvoir se confesser, et par la confession, on va retrouver une protection surnaturelle. C'est un petit peu comme un soldat qui part au combat sans armure. Alors évidemment, s'il n'y a pas d'armure, eh bien, il va être percé par les flèches. Les flèches de ses ennemis. Au contraire, s'il est armé, il est protégé par une armure, les flèches ne peuvent rien faire parce qu'elles ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur de l'armure. Autre texte de Saint Grégoire le Grand. Nous le voyons à l'approche de sa passion prendre du pain et rendre grâce. Celui qui a pris sur lui la peine due au châtiment des autres rend grâce à Dieu. Celui dont la vie n'offre pas l'ombre d'une faute bénit humblement dans sa passion. On retrouve ici la même image, et notre Seigneur Jésus-Christ, par sa passion, bénit notre âme, protège notre âme par le sang de son sacrifice. Texte de Saint Bède le Vénérable ensuite. Le vin du calice du Seigneur est mêlé d'eau et figure ainsi que nous devons demeurer en Jésus-Christ et Jésus-Christ en nous. Car au témoignage de Saint Jean, les eaux représentent les peuples. Donc lorsqu'on met une goutte d'eau dans le vin, Le goutte d'eau se transforme en vin. Comme ce vin va devenir le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, après les paroles de la consécration, la goutte d'eau est incorporé donc au sacrifice de la messe. Et la goutte d'eau, je vous l'ai dit, elle représente le peuple, chacun d'entre nous. Donc, par l'assistance à la Sainte Messe, nous incorporons à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et chacun d'entre nous, étant devenu partie intégrante du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, la goutte d'eau qui représente le peuple chrétien étant transformée au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, d'abord au vin, puis ensuite au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, nous fait clairement comprendre que nous faisons à ce moment-là partie intégrante du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, précisément parce que l'Église est le corps mystique du Christ. Il n'est permis à personne d'offrir ou du vin seul ou de l'eau seule. Une telle offrande semblerait vouloir séparer la tête des membres et signifier ou que Jésus-Christ a pu souffrir sans l'amour de notre rédemption, ou que nous ne pouvons être sauvés et mériter d'être offerts à Dieu sans nous unir à la passion. C'est pour cela que on ne met pas que de l'eau seule dans le calice ou du vin seul dans le calice, mais on mélange les deux. Ce sont des choses qui semblent être détails, mais qui n'en sont pas du tout. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ offre sa passion pour nous. Ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ va offrir cette passion pour nous à son Père. Et en offrant sa passion, eh bien, il va payer pour nos péchés. Et donc, il faut que nous soyons représentés dans cette passion. Eh bien, nous allons être représentés dans la passion qui est renouvelée sur l'autel à chaque fois que la messe est célébrée, justement par la goutte d'eau. Alors, quelques auteurs prétendent que Judas n'a point participé au divin mystère, mais qu'il sortit avant que le Seigneur les eût distribués à ses disciples. D'autres, au contraire, soutiennent qu'il reçut le corps sacré du Sauveur. C'est quand même l'opinion générale des pères, bien qu'il n'y ait pas consensus, que Judas a été ordonné prêtre le jeudi saint au soir, que Judas a été consacré évêque, et donc que Judas a aussi assisté à la première messe de notre Seigneur et a communié. Ça, c'est un grand mystère, un mystère d'iniquité. Le bon Dieu a permis que son traître, celui qui allait le trahir, communie. Non seulement qu'il communie, mais qu'il communie un état de péché mortel. Donc la première communion de Judas est une communion sacrilège, puisqu'il reçoit notre Seigneur Jésus-Christ en état de péché mortel, évidemment. Et pire que ça, il va aussi être ordonné prêtre et consacré évêque en état de péché mortel. Et cela encore ouvre un abîme de souffrance. Notre Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que nous recevions son corps, son sang, son âme et sa divinité en état de péché mortel. Mais il le permet. Si volontairement je prends sur moi d'offenser le bon Dieu et de communier, je commets un acte de communion sacrilège, qui est certainement le péché le plus grave qui se puisse commettre. Et le péché le plus grave qui se puisse commettre, c'est sans doute de communier un état de péché mortel. En toute connaissance de cause, communier en étant en état de péché mortel. Alors, est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ rentre dans l'âme qui est en état de péché mortel? Non, mais il y a quand même communion sacrilège, parce que la volonté est là de recevoir dans notre âme un Dieu qui ne peut pas rentrer dans notre âme parce que la porte est fermée à double tour. Donc c'est quand même l'enseignement général des pères que Judas était là à la première messe. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ a certainement souffert de façon très très forte de voir son disciple, un de ses apôtres, communier de façon sacrilège. C'est pour montrer que notre Seigneur Jésus-Christ respecte notre volonté propre. Il ne va pas, en quelque sorte, nous obliger à être en état de grâce contre notre volonté. Si je veux fermer la porte de mon âme, il va respecter cela, malheureusement. Qu'il n'y ait donc aucun Judas à la table du Seigneur. Ce sacrifice est une nourriture spirituelle. Or, de même que la nourriture corporelle, lorsqu'elle trouve l'estomac chargé d'humeur contraire, ne fait que le rendre plus malade, ainsi cette nourriture spirituelle, lorsqu'elle entre dans une âme souillée par le péché, rend sa perte plus certaine, non par l'effet de sa nature, mais par la mauvaise disposition de celui qui la reçoit. Donc déjà être en état de péché mortel, c'est affreux, mais comme il y a un état de péché mortel, ça ajoute à notre culpabilité devant Dieu. Vous voyez ? Donc, faisons très attention à ça, et avant de communier, prenons grand soin de ne jamais nous approcher de la Sainte Table en état de péché mortel. Rappelez-vous ce que dit Saint Paul, celui qui boit et mange le corps de son sauveur, de son Seigneur sans discernement, boit et mange sa propre condamnation. Là, je me permets de faire une petite note importante pour les parents, surtout avec les adolescents, de ne pas jamais obliger vos enfants à communier. Peut-être pour les tout petits, mais dès que l'enfant, tout petit qui ont 6-7 ans, qui ont fait la première communion, bon, les parents peuvent pousser l'enfant à communier. Mais faites attention avec les adolescents. J'ai eu des catastrophes où des adolescents n'étaient pas en état de péché mortel, et ne communiaient pas à cause de ça, ne voulaient pas communier. Donc la maman quitte le banc sur lequel elle est agenouillée avec son mari, avec la famille, et puis elle voit son enfant de 15-16 ans qui reste sur son banc. Et certaines mamans vont insister en disant, mais il faut que tu communies, viens communier avec nous. Il ne faut pas pousser dans ce cas-là, parce que vous ignorez totalement les raisons pour lesquelles votre enfant ne communie pas. Bon, si ça se reproduit, il faut à ce moment-là que les parents, soit le père, soit la mère, ça dépend un petit peu des circonstances, parlent discrètement avec l'enfant en disant, écoute, et encore une fois, il faut respecter le jardin secret de l'enfant, même de l'adolescent. Il faut essayer d'expliquer, écoute, je constate, ton père et moi, nous constatons déjà depuis un certain temps que tu ne communies plus à la messe, on est un peu inquiet. Est-ce qu'on peut t'aider en quelque chose? N'hésite pas à aller voir l'abbé, si tu veux, je peux prendre un rendez-vous pour toi, tu prends rendez-vous avec l'abbé pour pouvoir parler un petit peu avec lui. Par contre, ce que vous pouvez faire, quand vous vous rendez compte que l'enfant continue de ne pas communier, c'est en parler au prêtre. Parce que le prêtre ne s'en rend pas toujours compte, surtout s'il y a beaucoup de monde dans la chapelle. Et donc en parler au prêtre en disant, mon père, monsieur l'abbé, je suis un petit peu embêté parce que mon enfant, mon fils qui a 15-16 ans, là, ne communie plus depuis 2-3 mois, et je suis vraiment inquiet, est-ce que vous pouvez essayer de faire quelque chose? Et à ce moment-là, l'abbé peut, il a le droit et même le devoir d'essayer de parler avec l'adolescent pour essayer de voir pourquoi il ne communie pas. Et à ce moment-là, l'abbé, lui, a déjà un peu plus le droit d'essayer de pénétrer dans cette âme. Et encore une fois, l'abbé ne peut pas pénétrer dans cette âme de cet adolescent qui ne communie pas sans que celui de ce dernier ouvre la porte. Et il y a un jardin secret aussi pour le prêtre. Le prêtre ne peut pas rentrer, si vous voulez, de façon, en forçant la porte d'entrée de cet homme. Et ça arrive qu'on essaie de parler avec le jeune, sans l'aider, hein, je vois que vous ne communiez pas depuis déjà un certain temps, est-ce que je peux vous aider en quelque chose? Et parfois, on a des jeunes qui en face de nous sont complètement butés, ne veulent pas en parler. On est obligé d'attendre. On ne peut pas, encore une fois, obliger l'enfant à parler. Oui. Donc attention à ne pas obliger vos enfants à communier parce que vous pouvez faire des catastrophes en étant provoquant ainsi directement ou indirectement des communions sacrilèges. Donc que l'âme soit pure de toute souillure et que cette pureté s'étend jusqu'aux pensées parce que c'est ici le sacrifice de toute pureté. Il n'y a pas qu'on peut pécher mortellement, pas simplement par des actions, mais on peut aussi pécher mortellement, par des pensées. Il faut qu'il y ait consentement. De toute façon, une mauvaise pensée en tant que telle, si elle n'est pas acceptée, n'est pas un péché. Vous avez une mauvaise pensée, par exemple, qui vous traverse l'esprit et vous la rejetez tout de suite, il n'y a aucun péché. Bon, si vous jouez pendant quelques secondes avec la mauvaise pensée avant de la rejeter, en général, il n'y a que péché mortel. Il n'y a que péché véniel, pardon. Par contre, si vous acceptez complètement la mauvaise pensée dans votre âme, et que vous la conservez dans votre âme, que vous jouez un petit peu avec cette mauvaise pensée pour essayer d'en trouver du plaisir, par exemple, alors là, oui, il y a faute grave. Donc, le vin que le Christ boit alors est nouveau. Hein. C'est le texte de Saint Marc, le sang, la nouvelle alliance qui sera répandue pour un grand nombre. En vérité, je vous le dis, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau dans le royaume des cieux. Hein? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il le boit, disent les pères, d'une manière différente et toute nouvelle, car il n'a plus un corps passible qui ait besoin de nourriture, son corps est à la fois immortel et incorruptible. Cependant, attention, bien que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ soit immortel et incorruptible, il y a néanmoins un véritable sacrifice à la messe. Et deux fois que la messe, le Saint-Sacrifice de la messe est un sacrifice. Et donc, pour qu'il y ait sacrifice, encore une fois, il faut qu'il y ait cette séparation. Et cette séparation sera produite de façon non plus physique, parce que ce n'est plus possible. Il n'est plus possible d'avoir une séparation physique entre le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y aura une séparation qui est une séparation sacramentelle. C'est pour ça qu'il faut la double consécration. Est-ce qu'il y a présence réelle? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule consécration? Oui. Un prêtre oublié, par exemple, la deuxième consécration, il y aurait présence réelle. Si le prêtre a consacré un ciboire pendant la consécration, et qu'il oublie la deuxième consécration du vin, mais le ciboire a été consacré avec la première consécration, il y a présence réelle. Donc si vous communiez avec les hosties qui ont été consacrées, qui viennent du ciboire consacré pendant la messe, il y a présence réelle, vous recevez vraiment notre Seigneur Jésus-Christ. Mais est-ce qu'il y a messe? Non. Il n'y a pas messe, il n'y aura pas de messe célébrée ce jour-là. Pourquoi? Parce que comme il n'y a pas la consécration du précieux sang, il ne peut donc pas y avoir de séparation sacramentelle entre le corps et le sang, puisque le sang n'est pas là. Le sang est là par concomitance, mais il n'y a pas en tant que telle séparation entre le corps et le sang, par la double consécration. Comme il n'y a pas de séparation entre le corps et le sang, il n'y a pas de sacrifice. Donc la messe, elle est une messe sans sacrifice, donc ce n'est pas une messe. Donc ici, les pères donnent l'explication de ces paroles. La vigne, donc il dit, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Donc cette vigne, c'est le Seigneur lui-même. Le fruit de la vigne, ce sont les mystères et l'intelligence secrète qu'en donne celui qui enseigne la science à l'homme. Or, dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire dans le siècle futur, il boira avec ses disciples les mystères de la sagesse en nous enseignant, en nous révélant alors des vérités nouvelles dont il nous dérobe ici-bas la connaissance. C'est pour ça que la messe reste un mystère, attention. On ne peut pas comprendre parfaitement toutes ces choses-là, c'est impossible. On comprendra l'immensité du mystère de la Sainte Messe quand on sera au ciel. Et même au ciel, on ne pourra pas tout comprendre. Parce que pour comprendre Dieu tel qu'il se comprend lui-même, il faut être Dieu. Cependant, au ciel, nous aurons une intelligence des mystères beaucoup plus grande que celle que nous avons ici-bas. Mais les mystères demeureront. Est-ce qu'il sera possible pour quelqu'un au ciel de comprendre, par exemple, le mystère de l'incarnation, de la rédemption, de la Sainte Trinité? La réponse est non. Mais on aura une nouvelle connaissance, si vous voulez. C'est comme, expliquons par un exemple, c'est comme, si vous voulez, une pièce de drap que vous examinez dans l'obscurité. On ne voit pas très bien ce qui se passe, on ne voit pas les taches. Et puis quand on se rapproche d'une source de lumière, plus on se rapproche de la source de lumière, plus on voit ce qui se passe. Mais c'est un peu la même chose. Au ciel, on sera beaucoup plus proche de la source de la lumière ineffable qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on verra les choses beaucoup mieux qu'on ne les voit aujourd'hui, où on vit un peu, on voit les choses dans un miroir en quelque sorte. Au ciel, on les verra directement, mais on ne comprendra pas Dieu tel qu'il se connaît, comprend lui-même. Ce n'est pas possible. Donc cette vigne, c'est le Seigneur lui-même, c'est les grains de raisin donc, qui doivent être écrasés pour donner du vin. Et cet écrasement des grains de raisin dans le pressoir représente la passion. Dans un autre sens, dit Saint Bède le Vénérable, c'est la vigne du Seigneur, c'est la synagogue, c'est la vigne pardon, du Seigneur, c'est la synagogue au témoignage d'Isaïe, la vigne du Seigneur des armées, c'est la maison d'Israël. C'est donc au moment où le Sauveur marche de lui-même au devant de sa passion qu'il dit à ses disciples, je ne boirai plus du fruit de ce fruit de la vigne. C'est-à-dire en d'autres termes, je ne me complairai plus dans les cérémonies charnelles de la synagogue, parmi lesquels l'immolation de l'agneau pascal tenait le premier rang. Car voici venir le temps de ma résurrection, voici venir ce jour où, en possession du royaume de Dieu, élevé sur les hauteurs d'une gloire immortelle, je serai avec vous, comblé de joie, à la vue du salut de ce peuple régénéré aux sources de la grâce spirituelle. Pour cela que les cérémonies de la Pâque juive sont les cérémonies mortifères aujourd'hui. On ne pourrait pas, en aucun cas, assister, si vous voulez, aux cérémonies de la Pâque juive, parce que la Pâque juive, ce sont des cérémonies pour un Christ, annoncer un Christ qui n'est pas encore venu. Or, le Christ est déjà venu. Donc, si je participe à une cérémonie de la Pâque juive, je sous-entends que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore venu. Donc, c'est un blasphème. Passons au verset 26 à 31 du chapitre 14 de Saint Marc. Après avoir dit l'hymne, ils s'en allèrent à la montagne des Oliviers. Et Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés cette nuit à mon sujet, car il est écrit, je frapperai le pasteur et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Alors Pierre lui dit, « Quand tous seraient scandalisés à votre sujet, je ne le serai pas. » Et Jésus lui dit, « en vérité, je vous le dis aujourd'hui même, pendant cette nuit, avant que le coq n'ait chanté deux fois, vous me renierez trois fois. » Mais Pierre insistait encore davantage, « Quand il me faudrait mourir avec vous, je ne vous renierai pas. » Et tous disaient la même chose. Donc là, on va parler du mystère, donc de l'annonce terrible à Saint-Pierre. Notre Seigneur annonce à Saint-Pierre qu'il va le trahir trois fois. Un grand mystère, pourquoi est-ce que le bon Dieu a permis que le futur prêtre tombe trois fois? Pour bien nous expliquer que si Saint-Pierre est tombé, on risque fortement nous aussi de tomber. Saint-Pierre n'a pas été grand en tombant, il est devenu grand en se relevant. L'homme devient grand quand il se relève devant Dieu. Après avoir reçu l'absolution, se mettre en genoux devant le bon Dieu pour accuser ses péchés, c'est une chose. Mais lorsqu'on se relève après avoir accusé ses péchés au prêtre, on se relève bien plus grand. Pour cela que dans certains cas, si on se confesse avec un degré de contrition très important, on peut même avoir, après avoir reçu l'absolution, un degré de mérite supérieur à ce degré de mérite qu'on avait avant d'avoir commis le dernier péché mortel qui nous a fait perdre ses mérites. Donc notre Seigneur nous apprend, en page 24, en haut de la page, notre Seigneur nous apprend, enfin, lorsque nous sommes surpris par l'affliction, de ne point nous laisser râler à la tristesse, mais à rendre grâce à Dieu qui se sert de la tribulation pour opérer le salut d'un grand nombre. Notre Seigneur nous sauve par la croix, et donc il va nous sauver par la participation à cette croix. Et comment pouvons-nous participer à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ? Comment pouvons-nous aider notre Seigneur Jésus-Christ à porter la croix? Précisément en assistant à la Sainte Messe. En assistant à la Sainte Messe, on s'incorpore à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Au sens mystique, Saint Bède le Vénérable qui parle, au sens mystique, c'est dans un dessein plein de sagesse que notre Seigneur Jésus-Christ conduit ses disciples sur la montagne des Oliviers, après les avoir nourris et fortifiés des saints mystères, ça c'est le jeudi saint, au soir. Il nous apprend ainsi qu'après avoir reçu les divins sacrements, nous devons nous élever à des vertus plus hautes, à des grâces plus sublimes de l'Esprit Saint, vertus et grâces par lesquelles nos cœurs sont comme consacrés. Donc notre Seigneur va, si vous voulez, accumuler les grâces dans le cœur de ses disciples par le jeudi saint, soir, par la Sainte Cène, donc par la Sainte Messe, la Sainte Communion, le sacrement de l'ordre, le sacrement de l'ordre complété par l'épiscopat. Et ensuite, les apôtres étant remplis du Saint-Esprit, justement par tous ces sacrements, à ce moment-là, ils vont pouvoir accompagner notre Seigneur Jésus-Christ à la Passion. Mais comme ils n'ont pas encore reçu complètement les dons du Saint-Esprit, on est encore avant la Pentecôte, eh bien, ils vont tous s'écrouler, je dis ça au soir. Et pas un va suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Ici un texte aussi de Saint Jérôme. Notre Seigneur Jésus-Christ tombe au pouvoir de ses ennemis sur le mont des Oliviers, du haut duquel il monta au ciel, pour nous apprendre que nous aussi, nous montons au ciel au milieu de nos veilles, de nos prières et de nos souffrances, lorsque nous les acceptons sans résistance. Donc on va suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, la vie d'un chrétien, elle passe par les mêmes étapes par lesquelles notre Seigneur Jésus-Christ est passé lui-même. Donc il y a la naissance. Il va y avoir le jeudi saint, et il va y avoir le vendredi saint, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, et la résurrection de Pâques. Donc en suivant notre Seigneur Jésus-Christ, on commence par naître à la grâce, par le baptême. Ensuite, on va recevoir la Sainte Eucharistie le jeudi saint au soir. On va malheureusement, on va mourir en quelque sorte d'une certaine façon par le péché, et y ressusciter par le sacrement de pénitence, qui nous permet d'aller nous incorporer à notre Seigneur Jésus-Christ définitivement au ciel. Si, un beau texte, je pense que c'est aussi Saint Jérôme, il est de la nature humaine de tomber, mais il est diabolique de ne point se relever. Il est de la nature humaine de tomber malheureusement à cause des conséquences du péché originel, il est aussi de la nature humaine de tomber et de se relever par la grâce sanctifiante. Mais il est diabolique de ne point se relever. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Lorsque nous sommes en malheur d'avoir commis un péché mortel, l'homme va devenir grand s'il accepte à ce moment de se mettre à genoux. L'homme devient grand quand il sait demander pardon. C'est très important le sacrement de mariage. Mais je dis souvent aux jeunes futurs époux, quand je les prépare au mariage, attention, la phrase la plus importante qu'il va vous falloir répéter très souvent dans votre état de mariage, c'est la phrase « Je vous demande pardon ». Tant qu'un homme sait demander pardon à son épouse pour une offense, tant qu'il sait pardonner aussi, c'est le cas aussi pour l'épouse, tant qu'une épouse sait demander pardon pour une offense et sait pardonner à son époux, le mariage tiendra la route. Le mariage va commencer à s'écouler le jour où l'homme, surtout l'homme qui a du mal, ne sait plus demander pardon. C'est terrible, un homme qui n'est plus capable de demander pardon à son épouse. Un homme qui n'est plus capable de demander pardon à son épouse est un homme qui sera incapable de se confesser. Il ne pourra plus demander pardon au bon Dieu puisqu'il n'est pas capable de demander pardon à son épouse. S'il n'est pas capable de demander pardon à son épouse qui est toute proche de lui, comment voulez-vous qu'il puisse demander pardon à un bon Dieu qui est beaucoup plus éloigné de lui? Donc, n'hésitez pas, même dans les moments difficiles, il ne faut pas hésiter à se confesser, même se confesser régulièrement. On peut se confesser dans certains cas, il y a des jeunes qui ont besoin de se confesser tous les jours dans les moments difficiles, les moments de tentation. Il faut se confesser très souvent, surtout il faut se confesser souvent dans les moments où il n'y a plus de tentation, les moments qui sont plus dangereux pour nous. Entre autres, c'est le cas pendant le temps des fiançailles, pour les gens qui se voient très souvent pendant les fiançailles. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop se voir pendant les fiançailles pour ne pas multiplier les occasions de péché. Alors, celui qui refuse de se relever après un péché mortel reste entre les mains du démon et se jette corps et âme dans le cœur du démon, littéralement, et après, du coup, il ne peut plus se relever. Vous voyez ? Le fils est envoyé par son père et il est frappé, c'est-à-dire qu'il est incarné et souffre les douleurs de sa passion. Voici un oiseau sans aile qui veut s'élever dans les airs, mais le corps apesantit l'âme et donne à la crainte toute humaine de la mort une force qui triomphe de la crainte de Dieu. Donc, la personne qui est tombée par le péché, qui ne peut pas se relever, ça ressemble à un oiseau qui n'a plus d'ailes, il ne peut plus voler. Donc il faut pouvoir, par l'absolution, récupérer ses ailes, les ailes spirituelles de notre âme, pour que l'âme puisse s'élever vers le ciel et se rapprocher de Dieu. Le coq, messager de la lumière, notre Seigneur Jésus-Christ a expliqué à Saint Pierre, donc c'est au verset 30, « Cette nuit même, avant que le coq n'ait chanté deux fois, vous me renierez trois fois. » Donc ce coq, qui est messager de la lumière, figure l'Esprit-Saint, dont la voix se fait entendre à nous par les prophètes et par les apôtres. À l'occasion de ce triple renoncement, pour nous appeler à répandre des larmes amères sur nos fautes, sur nos chutes multiples, sur nos pensées coupables à l'égard de Dieu, sur nos discours blessants pour le prochain, sur les fautes commises contre nous-mêmes. Donc si Saint-Pierre, encore une fois, si bon Dieu a permis que Saint-Pierre tombe trois fois, combien de fois est-ce que moi je vais tomber? Donc ce triple péché de Saint-Pierre de nous rappeler justement nos chutes multipliées. Les trois chutes de Saint-Pierre représentent nos fautes personnelles. C'est pour ça que Saint-Pierre va tomber trois fois et notre Seigneur Jésus-Christ va aussi tomber trois fois pendant qu'il porte la croix. Donc Saint-Pierre tombe trois fois, cela représente nos péchés personnels, et pour chacun de ces péchés personnels, notre Seigneur Jésus-Christ va offrir ses propres chutes, ses chutes physiques. Donc notre Seigneur va tomber trois fois en portant la croix depuis la ville de Jérusalem jusqu'au Golgotha, pour rattraper les chutes de Saint-Pierre, et par les chutes de Saint-Pierre, rattraper toutes nos chutes à nous. Les chutes de Saint-Pierre représentent nos chutes à nous, puisque Saint-Pierre, il va chuter, mais en tant que Saint-Pierre, il représente aussi toute l'Église, dont il va devenir le pape. Alors passons au verset 32 à 42, en bas de la page 24, toujours dans Saint-Marc, chapitre 14. Ils allèrent ensuite dans une propriété appelée Gethsémani, et il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean, il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Et il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, demeurez ici et veillez. » S'étant avancé un peu, il se prosterna contre terre et il priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Et il dit, « Abba, Père, Tout vous est possible. Transportez ce calice loin de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que vous voulez. » Il vint vers les disciples et les trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, vous dormez? Vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous n'entriez point en tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. » Et s'en allant de nouveau, il pria, redisant les mêmes paroles. Et étant venu, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis de sommeil et ne savaient que lui répondre. Il revint pour la troisième fois, il leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez, l'heure est venue, voici que le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici que celui qui me livrera est proche. » Ici, il y a un passage, c'est moins ahurissant, donc il est dit que l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ a été envahie de tristesse. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Non, c'est pas une petite tristesse, c'est une tristesse beaucoup plus forte. Et qu'est-ce que c'est que cette tristesse? Rappelez-vous que la tristesse est le premier signe de la désolation. Tristesse, confusion, obscurité de l'âme et attraction vers les choses laides. Donc il y a eu chez notre Seigneur Jésus-Christ une véritable tristesse parce que notre Seigneur Jésus-Christ est tombé en véritable désolation. Notre Seigneur Jésus-Christ est tombé en désolation. Si notre Seigneur Jésus-Christ est tombé en désolation alors qu'il est Dieu, soyez pas surpris, mais bien chers frères, si vous et moi, nous tombons en désolation aussi bien fréquemment, précisément parce que nous ne comptons pas assez sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ a voulu tomber en désolation pour nous donner là l'exemple de ce qu'il faut faire en matière de désolation. Il a été tellement en désolation qu'il a fallu que Dieu le Père envoie l'ange consolateur. On verra ça dans les autres évangiles. Il a envoyé l'ange consolateur, et l'ange consolateur va réconforter le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ne soyons pas étonnés si nous tombons en désolation. Alors que faire en période de désolation? Rappelez-vous, pour ceux qui ont fait des exercices, les grandes règles de Saint Ignace, qui sont tellement importantes pour la vie spirituelle, les choses à faire en période de désolation, la première chose à faire en désolation, c'est rien changer. C'est ce que le démon nous pousse à faire. Le démon a réussi à nous pousser en désolation. Alors attention, la désolation en tant que telle n'est pas un péché. La preuve, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ a été désolé en désolation. Si la désolation était en soi un péché, notre Seigneur Jésus-Christ ne serait jamais tombé en désolation parce qu'il ne peut pas commettre de péché. La désolation n'est pas un péché. L'acceptation de la désolation est un péché. Et donc que faire en période de désolation? Période de désolation, donc, se repère surtout par cette tristesse. C'est pour ça qu'ici, il est bien mis que notre Seigneur Jésus-Christ, dans son âme, est triste jusqu'à la mort. Première chose à faire en période de désolation, ne prendre aucune décision. C'est pas le moment de prendre une décision. Donc, en période de désolation, on change rien, on attend. C'est la fameuse règle 5 des exercices de Saint Ignace, dans les règles de discernement des esprits, première partie, première semaine. Donc, première chose à faire, on ne change rien, on attend. Il ne faut jamais, jamais prendre une décision importante quand on est en désolation. Et il faut prendre le mot désolation au sens large. On ne prend jamais une résolution importante quand on est de mauvaise humeur, quand on est en désolation, quand on est avec des tendances qui sont mauvaises, quand on est malade, quand on est de mauvaise humeur, quand on n'a pas le moral, tout simplement. Il faut attendre. Ne pas prendre des désolations, mais attendre, ferme et constante, dit Saint Ignace, dans cette situation, jusqu'à ce qu'on retrouve la paix intérieure. Le démon va vous pousser, va nous pousser à prendre des décisions importantes dans les périodes de désolation. Combien de personnes ont fait d'énormes bêtises parce qu'ils ont pris une décision dans les périodes de désolation? C'est valable aussi sur le plan professionnel. Je dis souvent aux hommes, quand je prêche aux hommes, dire attention, ne prenez jamais une décision importante concernant votre métier, votre profession, dans les moments de désolation, il faut attendre. Dans la désolation, c'est le démon qui souffle sur les braises. Donc si on prend une décision pendant les périodes de désolation, on va avoir tendance à prendre la décision que le démon souhaite que nous prenions. Donc on attend. Vous avez eu une discussion importante avec votre patron, vous êtes énervé avec lui, il vous a dit des choses désagréables, et vous êtes très énervé, c'est pas le moment de prendre une décision. Attendez. C'est valable aussi entre époux. Il y a des moments difficiles entre les époux, ça arrive à tout le monde. Dans les meilleures familles, ça peut arriver. Vous avez une dispute avec votre épouse, avec votre époux. Surtout pas prendre de désolation. Surtout ne pas prendre de résolution à ce moment-là. Attendre que la désolation passe. Le démon va venir, ça c'est sûr. Le démon, le moment de prédilection d'action du démon, c'est dans les périodes de désolation. Donc, si vous avez eu une dispute avec votre époux, avec votre épouse, vous êtes sûr que le démon va arriver pour essayer de vous pousser à prendre une résolution importante, une décision importante concernant votre mariage, justement sous l'effet de la désolation. Il va vous pousser. J'ai connu des ménages qui sont écroulés comme ça parce qu'ils ont pris une décision importante. Le mari a dit, à cause d'une dispute avec son épouse, très bien, je m'en vais, il claque la porte et il s'en va. Et puis, des grosses bêtises qui ont été faites des deux côtés. Donc, attention à cette désolation. Alors, encore une fois, le bon Dieu a permis que son fils, dans son humanité, pas dans sa divinité, mais dans son humanité, tomba en désolation, pour nous apprendre à nous comporter dans les périodes de désolation. Donc, je reprends les quatre points dont je parlais. Donc, la première chose à faire dans les périodes de désolation, c'est de ne pas prendre une résolution. La deuxième chose à faire, c'est d'essayer de deviner où le démon nous pousse et de prendre la direction opposée. C'est ce qu'on appelle la règle de l'agire contra. Période de désolation, le démon travaille, c'est lui qui pousse, c'est lui qui souffle sur les braises. Donc, où est-ce que le démon me pousse? Vers quel point le démon me pousse-t-il? Et s'il me pousse à droite, on va à gauche. S'il me pousse à gauche, on va à droite. S'il me pousse à monter, je descends. Et s'il me pousse à descendre, je monte. Donc ça, c'est très important. Faire le contraire de ce que le démon me pousse à faire dans les périodes de désolation. Troisième chose, protéger son point faible. Protéger son point faible. Ça, c'est très important aussi. Dans les périodes de désolation, on est en position de faiblesse. Donc, il faut protéger son défaut particulier. Si je sais que j'ai tendance à me décourager, je sais que j'ai tendance à tomber dans tel péché dans les moments difficiles, c'est cette faille-là qu'il faut protéger. Enfin, dernier point, dernière chose à faire dans les périodes de désolation, c'est prendre conseil auprès de quelqu'un qui peut aider. Prendre conseil, savoir prendre conseil. Et lorsque vous voyez, quand des parents constatent que leurs enfants, ça arrive régulièrement aux grands adolescents, surtout, encore plus peut-être aux jeunes filles qu'aux garçons, mais quand vous rendez compte que votre fils, votre fille est en période de désolation, ça se voit tout de suite, on arrive à le repérer immédiatement. Il faut aider vos enfants. Surtout, ne pas les laisser là-dedans, ne pas tolérer qu'ils restent en désolation comme ça pendant parfois des semaines et des semaines, parce que c'est là où le démon travaille. Donc c'est là où il faut beaucoup de douceur, beaucoup de gentillesse, beaucoup de charité, beaucoup de patience de la part des parents pour qu'ils puissent aider leurs enfants. Il faut prendre l'enfant à ce moment-là en particulier. Souvent la jeune fille, ce sera la maman qui va s'en occuper. Le jeune garçon, ce sera le papa qui va s'en occuper. Voici, écoute, voilà, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Tu fais la tête depuis je sais pas combien de temps. On sent qu'il y a quelque chose. En plus, je constate que depuis un certain temps, tu t'es pas confessé. Depuis un certain temps, tu pries le chapelet avec nous. Tu ne communies plus. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a le démon qui travaille. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Bon, et au moins pousser le jeune à aller voir le prêtre. Souvent, une désolation va se terminer par une bonne confession. Certainement, le meilleur moyen de lutter contre la désolation, c'est la confession des sacrements. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ va monter sur la colline de Gethsémani, donc il va quitter la ville de Jérusalem, passer la porte, descendre dans la vallée, Jérusalem est sur un plateau. Donc notre Seigneur va descendre de ce plateau, passer le torrent du Cédron, un torrent presque toujours à sec, remonter de l'autre côté, et de l'autre côté il y avait un jardin qu'on appelait le jardin de Gethsémani. Gethsémani, c'est l'araméen, ça veut dire le jardin du pressoir, parce qu'il y avait un pressoir à huile. J'ai déjà expliqué que l'huile, les noyaux d'olive, pressés et transformés en huile, l'huile représentant la grâce sanctifiante, donc les noyaux d'olive qui sont pressés, écrasés, entre les deux meules, si vous voulez, représente la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'huile sort de la passion. C'est parce que notre Seigneur Jésus-Christ a accepté de mourir sur la croix, de souffrir la passion, avec la flagellation, avec le couronnement d'épines, avec le portement de la croix, c'est ça qui va permettre justement à l'huile de la grâce de sortir du Sacré-Cœur et de se répandre sur le monde. Donc notre Seigneur va choisir ce lieu, cette montagne, cette colline en fait, pour prier et nous enseigner ainsi à quelle sublimité de pensée et d'intention nous devons nous élever dans la prière. Donc, on monte vers Gethsémani, c'est-à-dire qu'on monte vers le bon Dieu par la prière dans les moments de désolation. Alors, c'est pas évident, parce que le dernier moment où on a envie de prier, c'est pendant la désolation, justement. Donc, le démon va vous pousser, pendant la désolation, à prendre une décision. Attention, attendez. Alors, page 25. En priant dans la vallée de la fécondité, notre Seigneur nous apprend à pratiquer toujours l'humilité dans nos prières et la fécondité de l'amour intérieur. Car c'est en descendant lui-même dans la vallée de l'humilité et en suivant les inspirations de son extrême charité qu'il a souffert la mort pour nous. Notre Seigneur Jésus-Christ commence par descendre avant de remonter. Donc avant de remonter pour sa passion, la passion va commencer en fait avec le jardin des Oliviers, hein, puisque c'est là qu'il va être arrêté. Le jardin des Oliviers est en hauteur par rapport à la vallée du Cédron. Donc on commence par descendre dans la vallée, pratiquer la vertu d'humilité avant de remonter vers la passion. Celui qui monte à la croix, poussé par son orgueil, va tomber, ça c'est sûr. Donc il faut d'abord pratiquer l'humilité, se revêtir de la cuirasse de l'humilité avant de remonter vers la passion. Notre Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas aller directement à la croix, il faut d'abord s'humilier. Donc le démon le sait, et donc essaie d'empêcher les gens de s'abaisser. C'est pour ça que le démon, lorsqu'il veut détruire une âme, utilise toujours les mêmes ficelles. La première étant toujours l'orgueil. Faire tomber les gens dans l'orgueil. L'orgueil va entraîner la désobéissance. L'orgueil va entraîner aussi la laideur de l'âme, la haine et la laideur de l'âme. Lorsque le bon Dieu quitte une âme, le cœur se remplit de haine. Ça, c'est terrible dans le monde moderne. On voit cette haine partout. La lutte des classes, c'est ça, c'est la haine contre notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, pour lutter contre l'orgueil qui entraîne cette haine et l'attraction vers les choses laides, le démon est le prince de la laideur, eh bien, il faut accepter de s'humilier, et en s'humiliant, on va pratiquer justement, au lieu de pratiquer cet orgueil, on va pratiquer l'humilité, au lieu de pratiquer la haine, on va pratiquer la charité, et au lieu d'être attiré par les choses laides du démon, on va être attiré par les choses belles de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc notre Seigneur va prendre avec lui trois disciples, Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean, qui ont été les témoins de sa gloire sur le Tabor. N'oubliez pas qu'au Tabor, pour la transfiguration, notre Seigneur va prendre les mêmes disciples, Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean. On voit très bien, là ici, ça c'est très important à comprendre, que dans l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas égalité parmi les apôtres. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait une création égale. Chaque âme est différente. Les âmes des apôtres ne sont pas au même niveau. Il y a certains apôtres que notre Seigneur Jésus-Christ aime d'une façon toute particulière. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas les autres, mais il aime chaque apôtre de façon différente. Il aime chaque âme de façon différente. Donc il aime d'une façon toute particulière Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean. Et donc, il va d'abord descendre de la chambre haute du lieu de la scène, il va descendre, quitter la ville, descendre au Cédron, pratiquer cette vertu d'humilité dont je viens de parler, remonter vers le jardin de Gethsémani. Là, il va laisser tous ses apôtres à la porte du jardin. Il ne laisse pas rentrer dedans, sauf Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean. Il les fait rentrer à l'intérieur, s'éloigne d'un jet de pierre avant de commencer son agonie de 3 heures. Et il prend Saint-Pierre et Saint-Jacques et Saint-Jean parce que justement, il a un amour tout particulier pour Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean. Tous les pères expliquent de la même façon. Saint-Pierre parce que Saint-Pierre va devenir le premier pape. Saint-Jean parce que Saint-Jean était l'unique apôtre qui était vierge. Tous les apôtres étaient mariés sauf Saint-Jean. Et Saint-Jacques est le premier apôtre qui va donner sa vie pour notre Seigneur. Le premier apôtre martyr, c'est Saint-Jacques. Donc il prend Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean et il va les préparer d'une façon toute particulière. C'est pour ça qu'on voit Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean avec notre Seigneur Jésus-Christ à la transfiguration et pas les autres apôtres. De même, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ va ressusciter, je crois que c'est la fille du chef de la synagogue, il prend avec lui dans la pièce, la chambre de la petite où elle est morte, étendue sur son lit, puis il prend avec lui Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean. Vous voyez ? Donc, il faut se sortir absolument, c'est pas évident, se sortir de notre esprit cette idée de ce principe d'égalité qui est une catastrophe. On est tellement contaminé par cette fausse idée d'égalité qu'on considère que toute égalité est une injustice. C'est ça qui est terrible dans le monde moderne. Inégalité veut dire injustice. Non, Dieu a créé toutes les âmes inégales, donc inégalité ne veut pas dire injustice. Le père, c'est pas la mère. La mère, c'est pas le père. Il y a une autorité chez les parents qui n'existe pas chez, la, chez, chez les enfants. La mère, c'est la reine. Le roi, le père, c'est le roi. Donc, il y a un rôle spécifique du roi qui correspond au rôle spécifique du père, qui n'est pas le même que le rôle spécifique de la reine qui correspond à la mère de famille. Vous voyez ? Donc, cette tristesse est une preuve de la vérité de son humanité, parce que Dieu ne peut pas tomber dans la tristesse, c'est impossible puisqu'il est Dieu. Donc, Dieu va manifester sa tristesse dans son humanité. C'est vrai qu'il est beaucoup plus facile de se rapprocher de Dieu en passant par son humanité, l'humanité sainte de notre Seigneur Jésus-Christ, et le pont, en quelque sorte, qui nous amène à la divinité. On voit très bien au Tabor, notre Seigneur Jésus-Christ va montrer son humanité. Une part, toute petite partie de la divinité, parce que si nous pouvions voir la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, on serait tellement épouvantés, tellement effrayés de cette divinité qu'on tomberait la face contre terre. On le voit très bien au Tabor. Les apôtres voient une toute petite partie de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que ses vêtements deviennent blancs comme la neige, son visage, le visage de notre Seigneur s'éclaire comme le soleil en plein midi. Et qu'est-ce que font les apôtres? Ils tombent la face contre terre. On voit la même chose au moment de la résurrection de notre Seigneur avec les soldats qui gardaient le tombeau. Ils assistent, ils voient l'ange qui vient déplacer la pierre. Ils ne peuvent pas supporter la lumière, la splendeur de la résurrection. Ils tombent la face contre terre également, justement à cause de cela. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ nous prouve qu'il est vraiment homme. Il n'est pas simplement Dieu, il est vraiment homme. Et pour cela, il va accepter de souffrir comme un homme. Dieu ne peut pas souffrir. Dieu ne peut pas tomber en désolation. Mais l'humanité peut tomber en désolation. Donc Dieu va tomber, notre Seigneur va tomber en désolation par son humanité, dans son humanité, et pas dans sa divinité, bien sûr que non. Quand il dit « mon âme est triste jusqu'à la mort », c'est son âme humaine. Hein, ce n'est pas sa divinité directement. La divinité ne peut pas tomber dans la tristesse. L'humanité, oui. Le sommeil auquel notre Seigneur défend à ses apôtres de se livrer, n'est point le sommeil ordinaire dont il pouvait être question aux approches du combat, mais le sommeil de l'infidélité, de la langueur d'esprit. L'infidélité, si vous voulez, la langueur d'esprit, c'est quoi? La langueur d'esprit, c'est cette espèce de paresse spirituelle. C'est pour ça que la paresse est un péché capital. C'est pas forcément toujours un péché mortel, mais c'est un péché capital. Cette paresse de l'esprit qui entraîne une faiblesse de l'âme. Et le sommeil dans lequel vont tomber les apôtres représente, nous disent les pères, l'infidélité. Mon âme ne peut plus veiller parce qu'elle est devenue infidèle. Oui. Donc attention à cette langueur d'esprit, à cette paresse spirituelle qu'on appelle l'acédie, c'est le nom. L'acédie, c'est une paresse spirituelle. Et l'acédie prépare l'âme à l'infidélité. Une âme qui tombe dans la cédie est une âme qui est prête à l'infidélité. Et l'infidélité entraîne toutes les catastrophes possibles et imaginables. L'infidélité entraîne l'idolâtrie. Et par l'idolâtrie, l'infidélité permet l'arrivée, surtout des péchés contre nature dans l'âme. On voit très bien dans la première épître aux Romains, l'épître aux Romains de saint Paul, chapitre 1, il explique que les péchés contre nature sont les conséquences du péché d'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est une infidélité. Donc, attention à cette tristesse. Quand vous voyez la tristesse qui commence à vous envahir, attention, là, il faut vraiment que ce soit les feux clignotants qui s'allument. Tristesse dans l'âme, ça veut dire danger, faiblesse. Attention, là, je suis en situation de faiblesse, je suis en situation de langueur d'esprit, de paresse spirituelle, et donc il faut faire le contraire de ce que le démon me pousse à faire. Le démon me pousse dans les moments comme ça à ne pas prier, je dois prier davantage. Faire le contraire, l'adjere contra, dont je viens de parler. L'adjere contra, c'est ça. Le démon me pousse à moins prier, prions un petit peu plus. Le démon me pousse à ne pas faire pénitence, faisons pénitence encore un petit peu plus. Le démon me pousse à ne pas communier, je dois les communier encore plus souvent qu'avant. Le démon me pousse à attendre pour ma confession, allons nous confesser tout de suite. Alors, notre Seigneur a-t-il fait, sans doute, peut-être a-t-il fait usage de ces mots dans une intention mystérieuse pour nous apprendre qu'il se livrait à cette tristesse comme représentant de son corps mystique qui est l'Église, dont il est devenu comme la pierre angulaire qui réunit les deux peuples, les Hébreux au nom desquels il prononce le mot Abba et les gentils qui disent à Dieu le mot Père. Donc, encore une fois, notre Seigneur va prononcer ces mots Abba, Père, à la première personne de la Sainte Trinité, dans son humanité, pas dans sa divinité. Donc ce mot, disent les Pères, symbolise également l'unité de l'Église qui sera formée du rassemblement des Juifs et des Gentils. Et tout ce passage est directement opposé à l'erreur de ceux qui ne veulent reconnaître dans le Sauveur qu'une opération, qu'une volonté. Car il établit clairement l'existence des deux volontés, de la volonté humaine qui refuse de souffrir à cause de la faiblesse de la chair et la volonté divine qui marche avec ardeur au-delà des souffrances. Attention, à notre Seigneur Jésus-Christ, il y a une double nature. Une seule personne, deuxième personne de la Sainte Trinité, mais deux natures, il est Dieu et homme, donc nature humaine et nature divine. Et qui dit deux natures, dit deux volontés et deux intelligences. Il y a une intelligence humaine, une intelligence divine dans notre Seigneur Jésus-Christ, une volonté humaine et une volonté divine dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la seule façon d'expliquer certains passages. Quand notre Seigneur Jésus-Christ dit, par exemple, « mon Dieu, pourquoi, mon Père, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Il dit ça dans son intelligence, sa volonté humaine, pas dans son intelligence divine. Et donc, faites attention, il y a des grands hérétiques, des grands hérésiarques qui ont nié justement cette double intelligence en notre Seigneur, ou double volonté en notre Seigneur. Il y en a qui sont allés jusqu'à dire que la nature divine a été littéralement, dans le Christ, absorbée par sa nature... la nature divine a absorbé la nature humaine. La nature humaine, en notre Seigneur Jésus-Christ, a été totalement absorbée dans la nature divine. Et ça conduit au docétisme, les gens qui nient la double nature de notre Seigneur Jésus-Christ. Les docétistes prétendent que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas un véritable corps. Et ça conduit aussi à ce qu'on appelle le monothélisme, le monophysisme, c'est-à-dire des hérésies, surtout chez les orientaux, les hérésies qui prétendent qu'il n'y a qu'une seule volonté en notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il n'est pas véritablement homme, il n'est que Dieu. Et donc, sa passion, c'est une impression qu'on a, mais qui ne correspond pas à la réalité. Enfin, je voudrais terminer par ça, donc Saint Jérôme, au milieu de la page 25, Saint Jérôme dit que le sommeil auquel les disciples se laissent aller par trois fois, donc trois fois notre Seigneur Jésus-Christ va revenir vers les apôtres et trois fois il va les trouver endormis, le sommeil auquel les disciples se laissent aller par trois fois nous représente les trois morts ressuscités par notre Seigneur. Rappelez-vous, il a ressuscité trois personnes. Première dans la maison, c'est la fille du chef de synagogue. La seconde fois, c'est lorsqu'on conduisait le fils de la veuve de Naïm au tombeau. Et la troisième fois, c'est dans le tombeau lui-même, c'est avec Saint-Lazare. Saint-Lazare, le frère de Sainte-Marthe et Sainte-Marie-Madeleine. Donc ça représente les différents états dans lesquels une âme peut tomber. La première mort représente le péché mortel de faiblesse. La deuxième mort représente le péché mortel délibéré, et la troisième mort représente le péché mortel qui est déjà devenu un vice. Et dans les trois cas, notre Seigneur Jésus-Christ peut ressusciter des morts. Donc il va ressusciter d'entre les morts et la fille du chef de la synagogue, et le fils de la veuve de Naïm, et Saint-Lazare. Pour bien nous montrer que, quel que soit l'état de dégradation dans lequel l'âme est tombée, notre Seigneur Jésus-Christ a pouvoir de ressusciter cette âme, comme il a eu pouvoir de ressusciter son propre corps, pourtant après la mort. Voilà, nous allons arrêter là, parce que ça fait déjà plus d'une heure que je vous parle. Donc la prochaine fois, Dieu aidant, nous terminerons, je pense, le chapitre 14 de Saint-Marc. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.